Les six raisons de la venue du Christ. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : Voici. Je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le Christ entrant dans le monde, Dieu va lui former un corps à sa mesure pour accomplir la volonté de Dieu vis-à-vis de l'homme pécheur, descendant d'Adam. Luc 1, versets 31, 34 et 35. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pour cela, Jésus, le corps que le Christ doit revêtir, n'est pas sorti d'Adam le pécheur, c'est-à-dire l'humain descendant de Seth, le fils d'Adam. Le descendant d'Adam n'est pas créé à l'image de Dieu, mais à l'image d'Adam le pécheur. Nous sommes sans Jésus les enfants de Seth, le fils d'Adam. Genèse 5, versets 2 et 3. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Nous ne sommes pas des descendants de Caïn ou Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et la fin d'Abel. De Seth jusqu'à la naissance de Jésus, tout être humain est séparé de Dieu par le péché de son ancêtre Adam. Tous, sans Jésus-Christ, nous sommes des étrangers de la vie de Dieu. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, écoutons les six raisons. Première raison, la réconciliation avec Dieu. Romains 5, versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 1 Timothée 2, 5 et 6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. L'homme qui était séparé de la vie de Dieu, Christ prenant le corps humain, est venu pour réconcilier l'homme avec son Créateur, et que l'homme retrouve le chemin du jardin qui lui a été interdit. Seul Jésus-Christ est l'homme mandaté par Dieu pour accomplir cette réconciliation. Deuxième raison, sauver l'humain. Par cette réconciliation, le Christ Jésus doit d'abord sauver l'homme de la mort. Celui qui est étranger de la vie de Dieu est un mort. Pour Dieu, il ne vit plus, car la vie c'est Dieu, et c'est sa parole qui donne la vie à un humain. Sans Christ Jésus, la vie n'existe pas. Osée 7, versets 13 à 16. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient, ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. L'homme par lui-même est mauvais. Il ne peut pas faire le bien pour se rapprocher de Dieu. Par ses pensées tellement mauvaises, ses pensées l'éloignent de Dieu. Pour le cas des Israélites, malgré la bonté de Dieu en les faisant sortir de l'esclavage en Égypte, les Israélites se redressent et méprisent Dieu. Exode 14, versets 11 et 12. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Malgré la loi de Moïse, même leurs chefs ont trahi Dieu. Deutéronome 32, 50 à 52. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors Dieu cherche un homme digne, un homme de confiance. Deutéronome 18, versets 18 et 19. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Matthieu 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Acte 4, versets 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ézéchiel 34, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître, mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. C'est à cet homme que Dieu donnera la responsabilité de conduire l'homme vers lui. Jean 14, 6 et aussi les versets 13 et 14. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Troisième raison, détruire le corps du péché. Dieu veut détruire l'homme pécheur, c'est-à-dire le corps du péché. Mais il faut que Dieu trouve une victime innocente qui doit payer pour les autres. Donc, pour nous, hommes pécheurs que nous sommes, Au vu du sang et du corps mort de cette victime, Dieu est satisfait. Genèse 22, 3 à 14. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Le bélier a pris la place d'Isaac. Le bélier est d'ailleurs innocent, mais il a payé à la place d'Isaac. Isaac est vivant. C'est Dieu qui a donné son bélier à Abraham, et cela pour accomplir l'offrande à Dieu. Dieu, par l'amour pour Isaac, s'est pourvu d'une offrande. Pour Abraham, c'est gratuit. Jésus a pris la place de Seth, le pécheur. Marc 14, 51 et 52. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Psaume 69, 8 et 9. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. C'est ce que Jésus a dit à Seth à propos du transfert de son péché à Jésus. Voici comment ce drap de l'opprobre de Seth par son père Adam a été porté par Jésus. Jean 19, versets 1 et 2. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Matthieu 27, 15 à 22. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y avait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent : Barabbas. Pilate leur dit : Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? Tous répondirent : Qu'il soit crucifié. Jésus prenant la place du pécheur Barabbas, Jésus est crucifié. Il est devenu pécheur alors qu'il n'avait jamais péché. Et c'est à cause de cette, le fils du pécheur Adam, Jésus est devenu étranger de la vie de Dieu. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, Dieu l'a abandonné. Dieu a abandonné Jésus revêtu des péchés de Seth. Cet habit d'opprobre qu'avait Seth par son père Adam. Jésus doit mourir pour effacer le péché dans l'homme qui porte le corps ressuscité de Christ. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La croix porte le corps du péché. Le sang coule. Dieu est satisfait de la mort de ce corps du péché, le corps rebelle. La question : Jésus a-t-il péché ? Non ! Alors pourquoi a-t-il été pendu au bois ? C'est à cause de l'homme pécheur. Il a fallu que Jésus, l'homme saint, soit mort à la place de l'homme pécheur, pour que cet homme trouve le chemin du jardin d'Éden qui lui a été interdit. Quatrième raison, prédication de la parole. Le Christ Jésus avait aussi pour mission de prêcher la vie de son Père et ce que Dieu attend de l'homme qui est sauvé. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 14, 6. Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jean 18, 37. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Le Christ Jésus est venu pour parler de son Père à l'homme. Pour cela, il a fallu qu'il guérisse l'oreille de l'homme pécheur qui était coupé. En guérissant cette oreille, l'homme trouve son oreille. Donc il peut entendre la voix de Dieu et saisir, comprendre cela. Ésaïe 35, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Car tous, Satan leur a coupé l'oreille pour ne pas entendre la voix de Dieu. Les Israélites n'entendaient pas la voix de Dieu. C'était les bruits de tonnerre, des volcans, des tempêtes, des feux qu'ils entendaient. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ne voulaient plus attendre. Écoutons Deutéronome 18, verset 1. Les sacrificateurs, les lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Pourquoi ils disaient cela? Leurs oreilles spirituelles étaient coupées. Luc 22, verset 50. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Ce passage, l'Esprit de Dieu veut seulement nous montrer comment Satan a coupé l'oreille de l'homme. Il a fallu la venue du Christ Jésus pour rétablir cette oreille. Luc 22, verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Ésaïe 28, 23. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Matthieu 11, 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, l'homme qui accepte Christ Jésus a retrouvé son oreille, et il doit la prêter pour entendre la parole de Dieu. Ésaïe 43, versets 7 et 8. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Donc ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui portent son nom par le baptême et qui le vivent en permanence, ce sont eux qui ont l'oreille spirituelle rétablie pour écouter la parole de l'Esprit et vérité de Dieu. Cinquième raison de la venue du Christ, sa mission, nous montrer comment le croyant chrétien doit mener sa vie sur la terre. Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. 1 Jean 1, versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Jean 13, versets 15 à 17. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Imitons Jésus, soyons Jésus-Christ par les actes que nous posons, par le comportement, la conduite, l'attitude et le langage. Il faut que la nature de Dieu Saint habite en nous. Jésus-Christ nous a donné l'exemple à imiter, à vivre quotidiennement ce commandement. 1 Timothée 1, 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Deutéronome 30, 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » En écoutant, en regardant le croyant chrétien, on entend et contemple Dieu en lui. Job 42, versets 5 et 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Jean 14, versets 8 à 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 15, versets 1 à 7. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est cela la cinquième raison de sa mission. Nous montrer comment le croyant chrétien doit mener sa vie sur la terre. C'est cela qui fait de nous enfants de Dieu. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Christ a pris le corps humain pour nous faire voir cela. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Sixième raison, notre avocat. Jésus-Christ siège à la droite du Père. après avoir accompli toutes ces cinq raisons pour plaider notre cause, pour intercéder. Hébreux 1, 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Tous les jours, jusqu'à la fin du temps, Jésus est assis à la droite du Père. Intercède pour nous en répétant cette fameuse phrase. Pardonne-les, pardonne-les, pardonne-les. Et chaque fois que le croyant chrétien tombe, regarde Jésus-Christ et se repent, il rentre dans cette intercession de Jésus. Il est purifié au même moment en abandonnant son péché. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous venons de passer en revue les six raisons de la venue du Christ sur la terre. On ne peut pas adorer quelqu'un si on ne le connaît pas. Les Israélites n'ont pas eu ce privilège à l'époque de Moïse, comme nous avons, nous croyants chrétiens avec Jésus-Christ. Ni Moïse, ni Aaron, ni aucun autre homme charnel ne peut nous amener à Dieu. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Acte 4, versets 8 à 11. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Et nous terminerons cet enseignement sur les six raisons de la venue du Christ avec Matthieu 11, 15. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Gloire à Dieu.